le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là.
Et pour commencer l'année dans cette chronique écho, on est avec Léo Malherbe. Bonjour Léo.
Bonjour.
Alors, on va voir si le réseau est bon. Il l'était il y a un instant. On va prier pour qu'il continue à l'être. Tu es maître de conférence en économie à l'université de Picardie, Jules Verne. Et aujourd'hui, tu veux nous parler de l'actualité politique et économique en Espagne. On t'écoute, Léo.
Oui, la dernière fois, j'avais fait une petite chronique sur les difficultés de la coalition de gauche, donc du Parti Socialiste et de Unidad Podemos, à se maintenir au pouvoir lors des dernières élections générales de juillet 2023, malgré des bonnes performances économiques. Donc, entre-temps, on a eu l'investiture d'un nouveau gouvernement, donc toujours avec le Parti Socialiste qui mène la danse, mais qui s'est allié avec une nouvelle force de gauche, Sumar, qui vient se substituer en quelque sorte à Unidad Podemos dans la coalition, sur une ligne moins radicale, et on verra que ça a des conséquences assez concrètes sur la politique économique. Et donc ce gouvernement, ça sera aussi important pour la suite, il a pu être investi grâce au soutien de forces assez périphériques, mais qui ont été, on va dire, absolument centrales pour garantir l'investiture. Donc ces forces sont essentiellement les indépendantistes basques, donc EH Bildu et le Parti nationaliste basque, et aussi des partis indépendantistes catalans, comme la gauche républicaine catalane et Junts per Catalunya, donc Ensemble pour la Catalogne, qui ont apporté donc le gouvernement un soutien à l'investiture du gouvernement en échange, en quelque sorte, d'un accord concernant l'amnistie des responsables d'un référendum critiqué en 2017 sur l'indépendance de la Catalogne. Donc ce gouvernement est maintenant en place, il commence à présenter des projets de loi au niveau parlementaire. La situation économique est plutôt bonne, on l'avait déjà dit la dernière fois, la croissance est plutôt favorable, l'inflation est assez bien contenue, puis on pourrait rajouter qu'on est sur un niveau d'emploi qui est record, hein. Le chômage est au plus bas depuis 2007, c'est la troisième année consécutive de réduction du chômage, et puis on a une amélioration des conditions de travail aussi, avec une augmentation des contrats à durée indéterminée, et un chômage des jeunes qui est en forte baisse. On peut noter aussi d'ailleurs que le salaire minimum a fortement augmenté, on est quasiment à 50% d'augmentation en 5 ans. Donc voilà un petit peu la situation économique et politique à laquelle on fait face aujourd'hui en Espagne.
Léo, est-ce que ce nouveau gouvernement, il est en mesure de maintenir le cap progressiste entamé en 2018 ?
Alors ce qu'on va essayer de montrer rapidement, c'est que cette coalition, elle s'est donc légèrement déplacée vers le centre-droite, et surtout c'est une coalition qui semble partir très divisée sur les premiers projets de loi. Donc on va mentionner deux exemples. Le premier exemple, c'est la question de la réduction du temps de travail, qui a été un des points clés de la campagne de Sumar et du PSOE, qui était au cœur de leur accord de gouvernement. Donc le projet consiste à passer d'une semaine de 40 heures, qui est la norme aujourd'hui en Espagne, à une semaine de 37,5 heures. Et donc l'idée, hein, ça serait de réduire de 30 minutes chaque journée de travail par semaine pour passer de cette manière-là, hein, de 40 à 37,5 heures hebdomadaires. Le problème qui se présente ici, hein, c'est que c'était une annonce de campagne, mais qu'à ce stade, rien n'est encore concret, rien n'est encore décidé. Et le gouvernement dit qu'il va mettre ça sur le tapis, mais mentionne le fait qu'il faudra faire des négociations collectives avec le patronat, avec les syndicats, etc. Et premier point, donc on ne sait pas trop où ça va aller. Et surtout, la question se pose de savoir si le gouvernement aura l'appui suffisant au Parlement pour faire passer ce projet de loi. Il y a notamment deux partis sur lesquels on peut avoir des doutes, hein, donc les deux partis les plus à droite de la coalition. On peut mentionner donc le Parti nationaliste basque, qui est plutôt un parti centriste, et surtout la force politique qui pose problème aujourd'hui, c'est Junts per Catalunya, donc un parti de droite populiste catalan, qui ne semble pas très favorable sur le papier à ce type de mesures. Le deuxième exemple, qui est peut-être un peu plus parlant et un petit peu plus concret du point de vue de l'actualité en ce moment en Espagne, c'est la question des mesures anti-crise, des mesures économiques, disons, anti-crise. La situation est la suivante. En fait, les partis de droite, donc le Parti populaire et puis le parti d'extrême droite Vox, demandent à l'unisson, on pourrait dire, la dissolution des partis qui promeuvent des discours indépendantistes, qui demandent l'instauration d'un délit de déloyauté constitutionnelle, etc. Donc des mesures qui s'attaquent directement à des partis comme Junts ou comme les partis basques. Et malgré cette situation de tension assez forte, Junts a annoncé qu'ils ne voteront pas le décret, donc un décret qui s'appelle le décret Omnibus, une sorte de gros package législatif proposé par le gouvernement et qui inclut plusieurs choses, notamment des dispositions nécessaires au déblocage de 10 milliards de fonds européens et qui prévoit, c'est ce qui va nous intéresser ici, le maintien aussi des mesures anti-crise qui ont été mises en place à la suite du Covid et de la guerre en Ukraine pour toute l'année 2024. Donc on parle de mesures comme le maintien des réductions de la TVA sur les produits de première nécessité, le maintien des réductions sur les transports publics, etc. Un certain nombre de mesures comme ça qui visaient à soutenir un petit peu le budget, on va dire, des classes populaires. Donc le rejet de ce projet de loi de la part de Junts, il est réalisé au motif que ce package législatif, qui, comme je le disais, est assez large, inclut aussi des dispositions qui pourraient, selon eux, freiner la mise en place de la loi d'amnistie et qui empiéteraient sur le pouvoir des communautés autonomes. Et cette crainte, elle est aussi partagée par certaines forces basques, notamment le PNV, même si celui-ci n'a pas encore annoncé s'il soutiendrait ou pas le décret. Donc du point de vue du gouvernement, on se veut toujours rassurant. Certains ministres ont communiqué sur le fait que le décret passera sans problème, etc., et qu'il ne s'agit que d'un malentendu avec leurs partenaires catalans. Le point que je voulais faire donc aujourd'hui, c'est que si ces premières mesures de politique économique du nouveau gouvernement Sanchez sont bloquées, à savoir la réduction du temps de travail et le maintien des mesures anti-crise, on peut avoir des doutes assez légitimes sur la capacité de ce gouvernement à maintenir le cap progressif. Et on entre donc dans une ère un petit peu d'incertitude quant à la suite des événements en Espagne. Affaire à suivre donc.
Affaire à suivre et qu'on suivra avec toi, j'imagine, dans les mois à venir. Merci beaucoup Léo Malherbe pour cette chronique des Clés de l'Écho. Et à bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.